Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Vous savez qu'en ce moment, ce sont les élections en Inde. Alors, le président Modi est bien placé, mais enfin bon, il y a beaucoup de... On va voter sur plusieurs semaines. Il y a quand même plusieurs centaines de millions de personnes à faire voter. Donc, ça a démarré vendredi dernier, ça va se terminer au 1er juin. Et c'est l'occasion de revenir un peu sur ce marché indien, parce que justement, l'Inde, on le voit souvent comme sur au niveau tech, comme plutôt de l'offshore. Et puis non, peu à peu, on voit qu'il y a des usines de fabrication, de design, de processeurs. L'Inde est en train de monter en puissance. Et nous avons un expert pour en parler avec nous, Benoît Ranini. Bonsoir.
Bonsoir.
Président de TNP Consultants. Alors TNP, c'est un cabinet de conseil solidement implanté en France, en Europe, Moyen-Orient et en Inde. On va en parler dans un instant. C'est 1000 collaborateurs. Il y a trois pôles, hein. Stratégie, trust et digital.
Tout à fait.
C'est ce qui draine un peu le chiffre d'affaires. C'est aux alentours de 130 millions d'euros.
Exactement. On a effectivement trois activités. Conseil aux directions générales autour de tout ce qui est définition des stratégies, de tout ce qui est merger and acquisition, trust pour tout ce qui est compliance et risque, et digital sur travailler sur la filière numérique, à la fois son contenant, la direction des systèmes d'information et du digital, et son contenu, les applications, la data, l'intelligence artificielle.
Et donc toutes ces grandes entreprises que vous accompagnez, il faut aller les accompagner à l'étranger, et notamment en Inde. Et c'était pour ça que je vous retenais, parce que TNP est présent en Inde depuis 2017, hein, donc ça fait déjà une belle expérience. C'est une centaine de consultants là-bas. Alors c'est dans les services financiers, l'accompagnement des grandes entreprises européennes et internationales là-bas, du conseil en stratégie management. Et alors, ma première question, c'est, on voyait l'Inde comme un pays du offshore, et en fait, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui, hein, au niveau tech en tout cas.
Déjà, l'Inde, c'est devenu une puissance économique mondiale.
Oui.
C'est devenu la cinquième puissance à dépasser la France. Hein. Mm-hmm. L'Inde, c'est plus de 4000 milliards d'euros de PIB. Hein. C'est donc la cinquième puissance économique mondiale. D'ici, avant fin 2030, ça sera la troisième puissance économique mondiale, oui, puisqu'ils vont atteindre à peu près 6000 milliards de PIB. Donc, c'est-à-dire qu'ils seront juste derrière les États-Unis et la Chine. Et ils seront devant le Japon, devant l'Allemagne.
Donc avec une population super jeune, 28 ans de moyenne
d'âge.
Voilà, on est à 40,
1 milliard 4 de personnes, donc le pays le plus peuplé du monde. Et en fait, il faut avoir en tête que depuis maintenant 10 ans, sous l'impulsion du Premier ministre Modi, mm-hmm, il y a eu un énorme investissement, à la fois pour créer des infrastructures, puisqu'il y a eu plus de 70 aéroports montés, des centaines de milliers de lignes ferroviaires, des métros, des lignes des autoroutes. Et en fait, il y a aujourd'hui un pays qui a des vraies infrastructures et qui, par ailleurs, a lancé, sous l'impulsion de Modi, ce qu'on a appelé « Make in India », mm-hmm, c'est-à-dire une vraie stratégie de dire « on va devenir une alternative à la Chine » en tant que pays manufacturier. Mmh. On connaissait l'Inde, effectivement, on connaissait l'Inde sur une sorte de nation de offshore technologique.
Pour aller faire développer ses logiciels.
Vous avez Accenture qui a 500 000 de personnes, Capgemini qui a 400 000 personnes en Inde. Enfin, toutes les grandes sociétés de services, plus les grands corporates européens et américains, ont créé depuis 20 ans des énormes centres de développement et de BPO pour créer des opérations. Depuis maintenant 10 ans, c'est en train de pivoter, mm-hmm, où l'industrie indienne, dans la pharmacie, dans ce qui va s'appeler le CPG, donc la grande consommation, dans le ferroviaire, dans l'aérien. Et c'est aussi pour nous, les Européens et les Français, des énormes opportunités de contrats. Et les entreprises françaises ont gagné récemment des très beaux contrats. On a parlé lors du dernier salon aéronautique, mm-hmm, de l'énorme commande d'Indigo. 500 commandes Airbus A320neo. On a parlé des commandes de Rafale. On a parlé aussi avant des commandes de trains et de métro. Mais il y a des énormes potentiels.
Et dans la tech aussi. Hein, donc, on sait qu'ils ont mis en place un système d'identité biométrique, hein, pour l'ensemble des habitants. Il y a un système de paiement aussi qui est, où on peut se payer d'habitant en habitant. Enfin, ils sont allés très vite aussi dans le domaine. Il y a un agent conversationnel. On parlait tout à l'heure de notre Albert en France. Ben là-bas, ça fait un moment. Ils en ont installé un. Enfin, voilà, ils avancent très, oui, fortement aussi.
D'abord, comme vous le disiez, c'est une population jeune et en plus, c'est le pays qui fabrique le plus d'ingénieurs dans le monde.
Oui.
Donc chaque année, ils fabriquent plus d'ingénieurs que toute l'Europe réunie. Mm-hmm. Donc ça veut dire que la capacité qu'a encore l'Inde à innover, travailler sur les technologies de demain, l'intelligence artificielle, ça va rester un atout concurrentiel extrêmement fort. et ça va rester un grand leader de la tech.
Et ils ont compris, parce que justement, on parlait de toutes ces forces en présence donc sur la partie logicielle, l'IA arrive, l'IA générative. On sait que l'IA, aujourd'hui, on évalue entre 15 et 20% de gains par rapport au développement. Ça veut dire qu'il va falloir revoir. Ils sont déjà en train de bouger aussi.
Bien sûr, en fait, mais nous-mêmes, on accompagne même des grands corporates européens ou des captives à commencer à transitionner vers l'IA. C'est-à-dire que on sait que ces gens qui étaient en partie sur du développement simple, ou en tout cas du développement, vont être remplacés entre 20 et 50% par de l'IA. Mais c'est pas grave, ils sont très agiles, donc ils sont en train de se dire, ok, donc on va déployer de l'IA, mais donc on va créer des nouveaux métiers pour générer, en fin de compte, pour quelque part piloter l'IA, parce que l'IA, elle doit être aussi pilotée, elle doit répondre à un certain nombre de contraintes réglementaires, il faut pas oublier qu'on est soumis à l'Artificial Intelligence Act, c'est très très cadrant, la data privacy. Donc en fait, ils sont en train de faire pivoter une partie de leur workforce qui était des développeurs vers des métiers nouveaux qui vont demain être autour des architectures et du pilotage des IA.
Et alors, vous le disiez, Benoît Ranini de TNP, l'Inde va devenir essentielle aussi dans le côté manufacturier. Ah oui. Alors, on regarde, on a parlé des avions et tout ça, mais si on regarde dans la tech, c'est pas par hasard qu'on voit Tim Cook qui dit, tiens, moi, d'ici 2030, la moitié de mes smartphones, voire les deux tiers de mes smartphones, ce sera là-bas. L'Inde va devenir essentielle dans le design de chipsets selon Qualcomm. Ils sont en train de d'accélérer.
Déjà, on s'aperçoit que on avait un problème avec la Chine après un certain nombre d'événements, le Covid, petite tension un peu géopolitique. On s'est aperçu que tout sourcé en Chine, ça posait un problème de souveraineté. Donc il y a beaucoup de pays, dont la France, dont l'Europe, sont dit on va repenser notre souveraineté, on va repenser nos chaînes de valeur et on va réinternaliser un certain nombre d'actifs industriels sur le territoire. Après, on a un problème de compétitivité. Donc il y a des choses qu'on pourra réinternaliser sur le territoire européen ou français. Il y a des choses qui resteront plutôt, qui seront relocalisés soit en Inde, soit par exemple au Maroc, qui va être aussi une localisation extrêmement courue dans les prochains mois pour réindustrialiser le tissu, on va dire, qui va quitter la Chine. Mm-hmm. En revanche, quand on regarde maintenant les produits, il y a de plus en plus de technologies dedans. Oui. Il y a de plus en plus de software. On appelle ça, c'est embedded. Oui. Donc, le fait d'avoir déjà en Inde la capacité à créer du soft, les talents à fabriquer du soft, en plus d'avoir une capacité à faire du manufacturing, ça les rend extrêmement forts. Parce qu'ils vont, pouvoir bénéficier du savoir-faire qu'ils ont acquis depuis des années sur le soft, le logiciel. Et maintenant qu'ils commencent à devenir aussi bons dans l'industrie, ils vont pouvoir faire converger ces deux mondes-là et devenir un des grands leaders du futur manufacturing.
Mmh. Donc c'est pas beau. C'est bien pour ça qu'on voit tous ces acteurs importants, les Google, les Samsung, les Apple. Là-dedans, la France, elle a sa carte à jouer évidemment, les relations franco-indiennes.
Nous, on en est convaincus. C'est-à-dire que nous, depuis 7 ans, depuis qu'on s'est installé en Inde, pourquoi ? Pour accompagner les grandes sociétés françaises ou européennes qui veulent se développer en Inde. Et on est fortement en proactivité pour leur expliquer à tous ces grands industriels français ou même les grosses ETI, qui a un énorme marché en Inde. Parce qu'aujourd'hui, il y a une classe moyenne de plus de 300 millions de personnes.
Oui.
Donc ces gens-là,
qui était la classe moyenne chinoise il y a 10 ans.
Nous, on s'est installé en Inde parce qu'il y a des constructeurs français qui nous ont demandé de les aider pour se développer en Inde. Donc c'est ce qu'on a fait. Mais après, les constructeurs automobiles, il y a eu l'industrie aéronautique qui s'installe. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'il y a une énorme opportunité dans l'industrie du luxe, parce que la classe moyenne indienne et puis les gens qu'on on va dire les gens qui sont à bon revenu en Inde, il y en a de plus en plus, c'est comme tout le monde, le nombre de riches et de gens qui ont des bons revenus dans le monde ne fait que croître, et en Inde c'est encore plus vrai parce qu'il y a c'est un family business qui s'est fortement développé, il y a des gens qui ont des entreprises de très belle taille,
les Tata,
Infosys sont Adani, il a un groupe, un conglomérat extrêmement puissant dans l'énergie et dans un certain nombre de domaines, donc il y a des gens très riches, mais en plus de ça il y a une classe moyenne. Cette classe moyenne là elle va être très friand de produits que sont capables de faire les Français ou les Européens dans le luxe, dans l'agro-business aussi.
Juste un mot aussi sur la partie RSE, parce que justement c'est ce qu'on regarde. On voit que les Chinois alors continuent avec du charbon, mais bon, ils voient les échéances à court terme. Non, eux, ils se projettent à 2070. L'Inde aussi est en train de faire de gros efforts dans ce domaine.
Ah bah, énorme. Est
souvent avec,
alors aujourd'hui, c'est vrai que l'Inde est encore très fortement liée au charbon, au pétrole, au gaz. Mais en revanche, là aussi, sous l'impulsion du Premier ministre Modi, il y a un énorme plan de transition énergétique où ils ont investi fortement dans le solaire, mais aussi dans l'éolien. Il y a un énorme projet entre une entreprise d'énergie et Total sur l'hydrogène vert. Et puis, il y a l'énorme sujet des EPR d'EDF qui devrait pouvoir se signer, on l'espère tous, bientôt, l'équivalent de une dizaine de gigawattheures.
Oui.
Donc c'est 6 EPR de dernière génération. Donc c'est-à-dire que le mix énergétique indien est en train de rapidement transitionner vers quelque chose de vraiment green, à la fois sur l'hydrogène vert, de la photovoltaïque et du nucléaire. Et ça, ça va se faire d'ici 2030-2035.
Et en plus, là, pour bien comprendre l'enjeu de ces élections, on a le Premier ministre Modi qui a vraiment mis cette IA, cette techno, c'est au cœur de sa politique, hein, même de son programme électoral.
Oui, oui. Bah, d'abord, ils sont un peu geeks dans l'âme.
Oui.
Donc ils aiment bien tout ce qui est digital, ils ont tous des smartphones, ils ont tous des IA. Et je crois que c'est un peuple qui a aujourd'hui une très grande culture, qui a aussi une très grande ouverture vers le monde, parce que, par exemple, la relation entre l'Inde, la France, l'Inde et l'Europe est plutôt très bonne. Hein.
Mm-hmm.
Ce sont des non-alignés, hein. Ils veulent être ni côté américain, ni côté chinois, ce qui nous va plutôt bien.
En plus, c'est un pays continent, c'est plein de pays.
Ah oui, bah, d'abord, c'est pas un pays, c'est un continent.
Oui.
Moi, je considère qu'il y a un grand parallèle, par exemple, entre l'Afrique et l'Inde. C'est à peu près la même taille, mais la même diversité. Quand vous allez au nord de l'Inde ou au sud de l'Inde, on ne parle même pas la même langue.
J'ai vu, si on prend deux Indiens, il y a 36% de chances qu'ils parlent la même langue.
Ouais. Et puis, il y a une énorme diaspora. Mmh. Nous, on a ouvert récemment le Middle East, parce que ce sont nos clients indiens qui sont partis à Abu Dhabi ou à Dubaï dans le Moyen-Orient, parce que maintenant tous les white collars sont indiens. C'est pareil aux US. Vous allez maintenant dans la Silicon Valley ou même à New York dans les grandes banques, une grande partie du board sont des Indiens.
Satya Nadella, Sundar Pichai, Patrick Nicholson.
Donc il y a une énorme diaspora.
Eh bien, merci Benoît Ranigny d'être venu nous parler de tout ça, président de TNP Consultants, donc présent évidemment en France, mais très présent aussi, de plus en plus présent en Inde, on l'a bien compris, et puis au Moyen-Orient. Merci d'être venu nous éclairer sur
ce qui se passe
en Inde.